Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Comment suivre correctement la scolarité de son enfant? Tous les parents rêvent de voir leurs enfants premiers de la classe, travailleurs, bons en français ou en mathématiques ou en ceci, en cela. Pour y arriver, il est de votre devoir de suivre de près leur scolarité. Il est important de vérifier régulièrement les notes des classes, de voir à domicile, cahier de communication, etc. Alors comment faire un bon suivi scolaire de son enfant? Théophile Mupalo.
Ok, merci pour la question, Judith. Je ne dirai jamais assez que l'éducation, en fait, l'éducation, c'est une seconde naissance pour l'enfant.
Oui.
Et il y a beaucoup de parents qui l'ignorent parfois. Ils l'ignorent pourquoi? Parce qu'on voit plusieurs, quelques-uns parmi eux, faire des enfants sans s'occuper de leur éducation. Et pourtant, ça c'est un adage, en fait, traditionnel.
Qui dit qu'il ne
suffit pas de mettre l'enfant au monde, faut-il encore l'éduquer, s'en occuper. Il y a un jargon à Lingala qui dit « Kobota elengi, mais kobokolo mama likambo ». Voilà un peu, disons, en guise d'introduction à la réponse par rapport à la question que vous venez de me poser.
Oui.
Les parents conscients, responsables, qui inscrivent leur enfant à l'école, leur souci c'est de voir celui-ci rentrer avec de bons résultats. Mais pour que l'enfant puisse rentrer avec de bons résultats, il y a des conditions. Ces conditions sont les suivantes. D'abord, je vous l'ai déjà dit à travers certaines émissions précédentes, il faut que ceux-ci fassent le choix d'une bonne école.
C'est la première chose. Le choix d'une bonne école.
D'une bonne école.
Oui.
C'est très important. Une bonne école sous-entend, ça sous-entend l'effet suivant. Et il faut qu'il y ait des bâtiments, il faut qu'il y ait des enseignants dignes de ce nom, il faut qu'il y ait du matériel didactique, il faut qu'il y ait des laboratoires, des bibliothèques, il faut qu'il y ait des ouvrages. Ainsi de suite. Ça, oui. C'est très important.
Oui.
Sans oublier, bien sûr, l'éducation du point de vue de la discipline. Également, deuxième condition, les parents doivent seuls se présenter à l'école pour inscrire leur enfant.
Et ne pas déléguer quelqu'un.
Il ne faut pas déléguer quelqu'un.
Envoyer une personne.
Envoyez pas leur oncle, un cousin qui reste à la maison. Non, moi je suis très occupé, je vais chercher l'argent. Vous mettez cet argent ou ces moyens à la disposition de celui-ci, c'est ce dernier qui part pour inscrire l'enfant. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire que l'enfant c'est un grand observateur. Pour que celui-ci se sente en confiance, il faut qu'il voit ses propres éducateurs, qui sont les premiers éducateurs, qui sont ses parents, s'impliquer dans ce processus scolaire. Donc, l'inscription doit être faite de préférence par l'enfant, par les parents. Je parle des parents ici, le papa ou la maman.
Ou les tuteurs.
Non, là... Le tuteur, non.
Si le papa le et tuteur, la maman ne sont pas là.
Absolument. Le tuteur peut intervenir si les parents ne sont pas là. Si,
oui.
Par exemple, les parents, par exemple, seraient en mission de service à l'intérieur ou quoi.
Ou décédés.
En ce moment-là, le tuteur peut intervenir. Mais dans le cas d'espèce, il faut que l'un d'entre eux puisse inscrire l'enfant. Soit le papa, soit la maman.
Ok, autre chose.
La condition, ce que nous pouvons considérer comme étant la troisième condition, il faut qu'il y ait un contact permanent entre la famille, disons les parents, et le maître de l'enfant, l'enseignant.
Par le moyen des cahiers de communication. Il y a des cahiers de communication.
Il n'y a pas que les cahiers de communication.
Oui.
Je vais arriver. Ne me précédez pas, permettez-moi que je puisse faire.
Allez-y.
Donc le contact, la collaboration, le concours entre la famille et l'enseignant. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, lorsque l'enfant atteint un certain âge, les parents se sentent plus ou moins dépassés par les compétences, les connaissances, etc. Ils sont obligés de mettre celui-ci à la disposition de l'enseignant, qui est leur mandataire. Et ils ne l'abandonnent pas. Ils doivent mettre les moyens à la disposition, disons, de cet enfant pour que sa scolarité puisse se passer dans de bonnes conditions. Et ils doivent assurer le concours, la collaboration entre l'école et eux. Comment ? Vous l'avez bien dit, nous pouvons commencer par là, par la signature de cahier de communication. C'est bien, mais il faut qu'ils vérifient chaque fois les notes obtenues par l'enfant. Les interros, les devoirs à domicile, il faut qu'ils ménagent leur temps, qu'ils soient très occupés, mais les parents doivent obligatoirement disposer d'un certain moment pour s'occuper, pour se mettre à la disposition de leur enfant, pour vérifier s'ils ont fait le devoir qui ont été donnés ou qui a été donné, n'est-ce pas, à l'école.
Donc, nous allons poursuivre tout à l'heure. Théophile Moupalo, le temps d'accueillir Kiabou Kabangé, il nous appelle de Lumbashi. Bonjour.
Bonjour, Jody.
Et on vous écoute.
Ok. Bon, j'ai une question à demander à notre invité.
Oui.
Est-ce qu'un parent peut arrêter les études de son enfant lorsqu'il constate que son enfant n'est pas en ordre avec quelques cours, par exemple la mathématique, la physique et d'autres cours?
Lorsqu'il n'est pas en ordre, qu'est-ce que cela veut dire?
C'est-à-dire, dans les cahiers de son enfant, il dit...
Oui, allez-y. Kiabou, vous êtes toujours en ligne. Désolé, il y a un problème. Oui, on vous écoute.
Oui.
Il n'a pas pu achever sa pensée.
C'est exact. Oui. Je crois qu'il voulait savoir au cas où l'enfant aurait des difficultés en mathématiques ou bien dans une autre discipline, est-ce qu'il y a moyen d'interrompre, je crois.
On imagine.
Imaginons, il faudra y revenir.
Oui.
J'ai dit qu'il y a une collaboration. Le concours doit régner entre les parents et l'école.
Permettez aussi, avant de le répondre, on va accueillir un autre auditeur. Marcel Chaba, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, j'ai dit bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Bonjour, j'ai dit bonjour à l'invité.
Bonjour.
Bonjour Marcel, quelle est votre question?
Oui, ma question est là.
Oui.
Oui, il y a certains parents, suite aux moyens financiers, sont incapables de suivre correctement la scolarité de leurs enfants. Pourquoi l'État ne s'implique pas à réaliser les projets de la gratuité de l'enseignement afin d'acheter les cahiers de communiquer, les histoires, tout pour les enfants là qui soient en bonne éducation?
Merci. Théophile Moupalo.
Oui, je ne veux pas faire la publicité du gouvernement. Mais en tant que parent, je crois, nous avons suivi il n'y a pas longtemps un entretien que le ministre de l'Éducation a animé avec, un échantillon des parents. Il a dit ceci, que dans certaines provinces, il y a suppression de frais scolaires de façon progressive dans certaines régions, dans certaines provinces. Mais en ce qui concerne Kinshasa, ça viendra par après. Mais pour ce qui concerne les fournitures scolaires, il y a un effort qui a été fait pour que, au niveau de l'enseignement primaire, que ceux-ci puissent disposer de pratiquement des fournitures élémentaires telles que les cahiers ou les livres de calcul, le livre de français. Pour faciliter en quelque sorte
les parents
qui n'ont pas de moyens. Oui. Mais ça sera progressif. N'oubliez pas que notre pays connaît une certaine crise.
Oui, ça va venir progressivement. Alors, revenons à la question du premier auditeur qui disait, est-il possible d'interrompre les études d'un enfant suite à certaines difficultés dans certaines matières?
Ok, d'accord. Oui. Bon, est-ce qu'il y a moyen d'interrompre? Non, je ne pense pas. Il ne faut pas interrompre brusquement. Vous, parents, votre rôle, justement, c'est d'être en contact avec l'école pour ne pas être surpris à la dernière minute, au dernier moment, à la fin de l'année, que l'enfant a échoué. Hein, ce que nous appelons la rémédiation. Vous devez apporter un certain remède à l'enfant. Mmh. Vous devez intervenir avant que ça ne soit trop tard.
Donc, il faut suivre la situation de près.
De près.
L'évolution de l'enfant à l'école.
Justement, votre intervention va se localiser au niveau de Par exemple, quand vous constatez que l'enfant est très faible en mathématiques, vous pouvez solliciter un percepteur, quelqu'un, ou bien un frère, un cousin de la maison qui a fait les mathématiques, qui est un peu plus fort, d'aider un peu cet enfant à pouvoir s'améliorer. Mais vous ne pouvez pas, comme ça, d'emblée,
interrompre
la scolarité.
Des questions, des préoccupations, appelez-nous au 081 890 63 94. Comment suivre correctement la scolarité de son enfant? Théophile de Montpalo, expert en éducation et l'invité du magazine Okapi Service.
Au pays des léopards, le ballon est roi et le football a désormais son émission. Okapi Foot, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Okapi vous donne la parole. Okapi Foot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081 890 64 89.
Comment suivre correctement la scolarité de son enfant? Josué Agondromassi nous appelle de Bounia. Bonjour.
Oui, bonjour, j'ai dit bonjour à l'invité, à tous les auditeurs de la radio Capi du Parlement
national. On vous écoute, Josué.
Oui, certes, messieurs les journalistes, suivre la scolarité de son enfant, c'est profond de dire, comme vous l'avez dit, qui anime chaque paradigme de ce nom. Mais en fait, messieurs les journalistes, je voudrais poser à l'invité la question de savoir ce que peuvent faire les parents qui désiraient de suivre la scolarité de leurs enfants, s'obliger aux difficultés d'ordre technique par le fait qu'ils n'ont pas pu atteindre un certain niveau intellectuel susceptible de leur permettre de non modo suivre. Voyons, messieurs, bien suivre la scolarité de leurs enfants, car selon moi, monsieur le journaliste, et je sais bien que vous conviendrez avec moi que suivre la scolarité de son enfant, il faudrait l'accompagner intellectuellement, dira tout son cursus scolaire. Voici là ma question.
Merci. Il veut dire les parents qui n'ont pas beaucoup étudié, comment peuvent-ils être à mesure de suivre la scolarité de leurs enfants? Clément Mouya, vous êtes en Boujima et au Kassai Oriental. Bonjour.
Oui, bonjour, Jody. Bonjour à l'invité.
On vous écoute, Clément.
Oui, nous avons cet ardent désir de voir nos enfants premier ou deuxième de la classe ou d'avoir de bonnes cotes en français ou en mathématiques ou autre discipline.
Oui.
Mais nous sommes butés devant deux difficultés. Donc le premier, c'est le moyen, et le deuxième, c'est le temps. Pourquoi le moyen? C'est-à-dire que nous voulons à chaque fois que les enfants aient, par exemple, un précepteur à la maison. Mais vous conviendrez avec moi que les moyens font défaut. Dans bon nombre de ménages, les moyens font défaut. Et après ça, nous avons le problème de temps. Les parents quittent trop tôt le matin pour rentrer trop tard le soir. Même les parents lui-même pouvaient être incapables d'encadrer son enfant. Mais du fait qu'il est chargé sérieusement pour chercher le pain à ses enfants, il n'aura pas ce temps-là. Voilà un peu la grande difficulté que nous sommes en train de prouver. Mais il y a aussi des parents qui quittent le boulot bien avant, mais qui ont cet ardent désir de pouvoir encadrer leurs enfants, mais ils se laissent emporter par l'ambiance de leurs collègues, de se retrouver dans un petit de boisson pour prendre un verre.
Oui.
Et pour dire que si je partais à la maison à 7h, je serais dérangé par les enfants. Voilà un peu la grande difficulté que nous avons.
Merci, Clément.
Et je voudrais poser la question à l'invité, s'il vous plaît, Judith.
Oui.
Qu'est-ce qu'il faut faire devant ces enfants inintelligents de naissance, même s'ils sont en présence d'un précepteur, même s'ils sont en présence de leurs parents pour les encadrer, mais les enfants ne parviennent pas à se retrouver correctement, à avoir de bonnes cotes, à avoir de bonnes places en classe. Qu'est-ce que l'intervenant peut nous dire?
Merci.
Qu'est-ce que nous pouvons faire?
Merci Clément Mouya depuis Boujimaï. Docteur Kipasa, vous êtes à Kikuit, dans le Bandundu. Bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à l'intervenant.
On vous écoute, docteur.
Merci Jody. Il est connu que dans le processus d'apprentissage, il y a l'apprenant et celui qui est en train d'apprendre à quelqu'un.
Oui.
Est-ce que je suis les conditions qu'il a évoquées là? Mais je voudrais qu'il élabore un tout petit peu sur le rôle ou l'importance de la médecine scolaire sur la performance des enfants. Que comment les parents peuvent suivre la partie de la médecine scolaire qui joue un grand rôle dans la performance. On n'a pas parlé de ça.
Vous parlez de l'importance de la médecine scolaire dans la performance de l'enfant. Veuillez expliquer un tout petit peu, docteur.
Voilà, je dis ceci, je dis. Un enfant qui a tous les cinq sens qui fonctionnent normalement, un enfant, regardez à qui ça, vous verrez beaucoup d'enfants qui font des lumières. C'est un enfant, même dans des meilleures écoles, qui ne voit pas bien, qui n'entend pas bien, la performance de cet enfant ne sera pas correcte. Et les parents pensent que l'enfant n'est pas intelligent, alors que l'enfant n'arrive pas à bien capter tout ce que le professeur ou l'enseignant est en train de donner. Et quel est le rôle? Et dans quelles conditions, dans quelle catégorie il va placer les jeunes scolaires ou la médecine scolaire qui influence la performance des enfants à l'école?
Bien, merci docteur Kipassa. Vous êtes nombreux à vouloir participer dans cette émission. J'ai encore beaucoup de questions des auditeurs sur Facebook. On va y revenir tout à l'heure. On va accueillir un autre auditeur, Christian Gabou. Il est à Pandroma, en province orientale. Christian, bonjour.
Bonjour, je dis qu'à Chamba et c'est qu'à l'éviter.
On vous écoute.
Ma préoccupation, c'est tout juste une orientation. Si l'évité peut nous aider à orienter une certaine famille, il y a des familles qui ont des difficultés au niveau de vérification de travail de l'enfant. Et parce que il y a des enseignants qui font des confusions aussi au niveau de l'école. Quand l'enfant travaille, il le corrige seulement. Il donne 10 sur 10 à l'AFA pendant que l'AFA a fait un petit erreur quelque part qui ne pouvait pas avoir l'AFA à trouver 10 sur 10, soit 6 sur 10. Alors, quand l'AFA arrive à la maison, déjà quand on lui a donné 10 sur 10, les parents, il n'a pas aussi beaucoup étudié, mais lui, les parents se réjouissent seulement du point qu'il a vu de l'AFA.
Oui.
Donc, pendant que les parents devraient aussi vérifier si réellement des points obtenus à partir du travail réel fait de l'enfant. Alors, il y a de confusion comme ça. Est-ce que l'évité peut nous éclaircir un peu comment orienter ce membre de famille qui n'a pas beaucoup étudié pour chaque fois aussi vérifier le travail de l'enfant pour confirmer que son enfant est fort en français, il a réellement eu 10 sur 10 ou soit réellement 8 sur 10.
Voilà. Merci Christian Gabou. Comment suivre correctement la scolarité de son enfant? Théophile, vous avez beaucoup de questions. Vous allez répondre rapidement à chaque auditeur parce que d'autres vont encore arriver tout à l'heure. Et Josué a posé la question de savoir pour les parents qui n'ont pas étudié. C'est la même question que Christian. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Oui, oui. Les parents qui n'ont pas beaucoup étudié doivent le savoir. Ils doivent maintenir le contact avec l'école. Parce que la langue qui est utilisée dans ce contact-là, je crois que c'est la langue qui est parlée par eux, les parents, et par les enseignants. Alors, il arrive que l'école organise des réunions des parents. C'est au cours de ces réunions, moi j'ai été président des comités de parents, tout ça, depuis une certaine année, tout ça. Bon, les parents qui ne savent pas s'exprimer en français, mais ils savent quand l'enfant ne travaille pas bien avec les collègues parents, on lui dit non, il vérifie, est-ce que l'enfant, les résultats, qu'est-ce que vous en pensez? Et séance tenante, pendant la réunion, ils peuvent exprimer leur desiderata à l'école. À ce moment-là, il y aura, n'est-ce pas, une solution. Donc, il n'y a pas que le cahier de communication qu'il faut signer, parfois vous êtes dépassé le fait d'avoir pas étudié, il y a aussi d'autres structures initiées par l'école, telles que les rencontres avec celles-ci, ce qu'on appelle les réunions des parents, eh bien, auxquelles vous devez assister et revendiquer vos droits.
Part l'école, est-ce que les grands frères ou d'autres membres de la famille qui ont étudié?
J'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas vous déresponsabiliser. Le parent, d'abord, c'est leur premier devoir. Vous ne pouvez pas, comme ça, envoyer, n'est-ce pas, ce que j'appelle ici des cousins, des siblings ici, c'est-à-dire
des frères, des sœurs,
tout ça. Ça vous incombe. C'est votre première responsabilité en tant que géniteur. Donc, vous devez vous occuper de votre enfant. Même si vous n'avez pas beaucoup étudié, ça, c'est un faux problème. Il faut que vous arriviez, quand l'école convoque des rencontres, l'enfant vous dira, papa, écoutez,
nous avons réunion des parents.
Vous devez aller. Il ne faut pas trouver des subterfuges pour ne pas y aller.
Pour ne pas y aller. Voilà. Alors Clément Mouya de Mbujima, il nous dit qu'il y a deux difficultés. Il a évoqué deux difficultés. D'abord, les moyens. Il dit qu'on n'a pas assez de moyens pour engager un percepteur, pour répéter avec l'enfant. Et puis le temps, il quitte la maison. Certains parents quittent la maison très tôt pour rentrer tard. Ils n'ont pas le temps de s'occuper et de faire le suivi. Et d'autres ont quand même le temps de revenir très tôt, mais ils préfèrent aller avec des amis, prendre un verre quelque part. C'est Théophile Mpalo.
Oui. Pour notre ami, je crois que le conseil qui nous a toujours été donné, nous, en tant que parents, c'est, parmi ces conseils, j'ai retenu un qui paraît prépondérant. Quand vous avez terminé votre travail, avant d'aller dans les bistrots ou bien dans je ne sais pas quoi, aller boire, vous devez d'abord arriver à la maison. Absolument. Et vous ne travaillez pas même le week-end. Vous devez essayer d'aménager votre emploi de temps pour que vous puissiez avoir un moment mis à la disposition, non seulement de l'école, y compris de l'enfant, pour que vous puissiez vérifier comment l'enfant évolue. Il ne faut pas trouver des faux fuyants pour dire « Non, moi je vais chercher l'argent, je n'ai pas le temps. » Non, vous avez le temps pour aller boire, vous devez avoir aussi le temps pour vous occuper de vos enfants. Absolument. Ça, je n'ai pas ajouté de moyens.
Alors, il a encore dit « Que faire devant ? Vous avez un enfant qui n'est pas très, très intelligent. » On lui explique les choses, il ne comprend toujours pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec
ces enfants ? Je l'ai dit tout à l'heure. Non, aujourd'hui, par exemple, le problème a été plus ou moins réglé au niveau de l'école. Il y a des écoles qui ont à leur disposition ce qu'on appelle des conseillers d'orientation et même des assistants sociaux, des assistantes sociales. Eh bien, il doit se mettre en contact avec ce spécialiste-là, des techniciens, pour l'aider, pour les aider. Donc, ces parents qui ont des difficultés de ce genre-là doivent se mettre en contact avec le conseiller d'orientation scolaire
pour les enfants qui assimilent difficilement certaines matières. Voilà. On va, avant de répondre à Dr Kipassin, Ismaël Mumpo, il nous appelle de Lumbashi. Bonjour.
Bonjour, Jordi. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Campus.
On vous écoute, Ismaël.
Oui, j'ai cherché à savoir l'évolution de l'enfant entre la sociologie scolaire et familiale. Qui doit être le premier à s'intéresser pour savoir l'évolution, c'est les parents ou les élèves. Alors la distance qui lie une école à une autre, à quel peut être le kilométrage d'une école à une autre pour que le parent, soit les enseignants, peuvent s'intéresser sincèrement à l'évolution, tant qu'à l'école, tant qu'à la famille de l'enfant.
Bien, merci. Rajab, vous êtes à Kindou, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, et bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Ma préoccupation était celle de savoir, rappelez-vous bien que l'éducation, c'est les concours et des familles et de l'école, mais maintenant, il y a certains problèmes que nous constatons dans nos écoles, c'est qu'il y a le surnombre d'enfants. Les parents peuvent fournir des efforts pour aider l'enseignant, mais quand l'enfant arrive là-bas, il termine toute une journée sans même être doigté ou bien sans même être posé, sans qu'on lui pose la question. Alors, l'enseignant là, vous voyez que c'est comme si il est dépassé par le nombre d'enfants.
Oui.
C'est pourquoi notre invité doit d'abord proposer une solution à un enseignant qui est surpassé par le nombre d'enfants. C'est parmi les difficultés dont les enseignants connaissent ça.
Voilà, merci Rajabou de Kindou, dans la province du Maniema. Fidèle, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour Daniel.
Pardon, vous êtes en Mbujima, Fidèle. Vous êtes en Mbujima ou à Kananga?
Je suis sur la ville de Kananga.
Vous êtes à Kananga, on vous écoute.
Oui. La question était de savoir, vous demandez à notre invité, quel mécanisme faut-il mettre en place pour assurer la scolarité de l'enfant que j'envoie par exemple à l'internat pour aller vivre seul, soit pour aller habiter seul, louer une maison. Comment est-ce que je peux assurer sa scolarité pour suivre de près les résultats qu'il est en train de réaliser à l'école? C'était ça ma préoccupation, je dis, je vous remercie.
Merci Fidèle. Théophile Mpalo, rapidement, la question du docteur qui passe à l'importance de la médecine scolaire. Il dit, pour un bon rendement à l'école, il faut suivre, peut-être que l'enfant a des problèmes d'écoute, il n'écoute pas très bien, soit il a des problèmes au niveau des yeux, il doit se faire soigner. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à ça rapidement?
Oui, oui. L'idéal aujourd'hui, c'est de créer ce qu'on appelle des dispensaires scolaires. C'est très important. Mais avant d'y arriver, je crois, le gouvernement a mis à la disposition de la plupart de nos écoles aujourd'hui, ce que je venais de citer tout à l'heure, des spécialistes en matière d'orientation scolaire et professionnelle. Eh bien, ces spécialistes sont là pour voir comment l'enfant étudie, quelles sont les difficultés qui entravent l'évolution scolaire de l'enfant. Et parmi ces difficultés, il y a des difficultés physiques. Tout à fait. On constate
sur le plan de la santé, l'enfant n'entend pas très bien.
Effectivement. Donc,
Est-ce qu'aujourd'hui on a des dispensaires comme ça dans toutes les écoles?
Non, c'est pas. Et j'ai dit tout à l'heure au départ que les parents doivent choisir des bonnes écoles.
De bonnes écoles.
Oui, hein, éventuellement.
Mais les écoles qui ont des dispensaires scolaires,
c'est à compter au bout du doigt. Mais il y en a qui font un effort pour avoir quelque chose. Ceux qui n'en ont pas, celles qui n'en ont pas, doivent évidemment faire appel à des spécialistes ou créer des contacts, des conventions avec certaines écoles pour le suivi, n'est-ce pas, de ces enfants à travers
les conseillers d'orientation
qui doivent détecter, confirmer la mauvaise visibilité, la cécité ou le problème.
C'est des conseillers ou bien des infirmiers ou des médecins?
Non,
un personnel médical.
Dans un premier temps, ce sont les conseillers qui constatent et puis ils mettent ces enfants à la disposition de dispensaires, donc des spécialistes en
alors sciences. Ismaël veut savoir, entre les parents et l'école, qui doit s'occuper plus de l'enfant?
Oui, entre l'école et les parents. J'ai dit tout à l'heure que les parents ne peuvent pas profiter de faire un débarras par rapport à la scolarité de leurs enfants. Dès qu'ils inscrivent l'enfant, c'est fini. Ça, c'est l'affaire de l'école, etc. Non, ils doivent continuer à collaborer avec l'école.
Avec l'école.
Pour ne pas être surpris à la dernière minute, à la fin de l'année, l'enfant n'a pas réussi.
Raja Boudekindou dit dans certaines classes, il y a les surnombres d'élèves. Alors, comment l'enseignant peut bien suivre les enfants dans ce cas-là?
Les enseignants, ce sont des spécialistes. Ils savent comment intervenir, mais ça, ce sont des cas tout à fait exceptionnels. Parce que, en principe, vous, en tant que parent, vous ne pouvez pas aller condamner votre enfant à l'inscrire dans une école où il y a une pléthore d'enfants et puis attendre des bons résultats. Non! Non,
c'est compliqué.
C'est compliqué, absolument.
Oui. Alors, Fidèle de Kananga dit, il envoie son enfant à l'internat ou il envoie lui une maison quelque part. Alors, comment suivre correctement sa scolarité pour s'assurer qu'il travaille bien?
Mais là où vous êtes, il n'y a pas de bonnes écoles, parents, en tant que parents. Si là où vous êtes installé, il y a des bonnes écoles, pourquoi vous envoyez votre enfant à l'internat? On envoie l'enfant à l'internat lorsqu'il y a une raison plausible. Par exemple, vous êtes tout le temps en mutation. Vous êtes militaire, vous êtes infirmier, etc. Tout le temps en mutation. En ce moment-là, vous êtes obligé d'envoyer votre enfant à l'internat. Mais si vous êtes un bon fonctionnaire affecté quelque part de façon permanente, il n'y a pas de raison d'aller sacrifier l'enfant en le mettant à l'internat.
Voilà. Maurice Zawadi, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, M. Jody.
On vous écoute.
Merci beaucoup. J'ai une petite préoccupation concernant le sujet que la radio a fait aborder aujourd'hui, combien elle est importante.
Oui, on vous écoute. Parce
que j'avais mon enfant.
Oui.
L'enfant, l'année passée, a étudié à une école comme ça, de la place. Mais moi, j'avais constaté à la fin d'année qu'il y avait quand même des petites complications. L'école n'était pas quand même bonne. J'ai préféré que l'enfant puisse changer de l'école. J'étais parti prendre l'inscription pour l'enfant. Et j'étais parti la toute première fois accompagner l'enfant à l'école. Quand je suis venu avec l'enfant, bon, l'enfant m'a dit que non, papa, moi, je n'aime pas cette école. Cette école n'est pas bonne. Bon, je posais des questions. Pourquoi? Non, moi, je me restais là qui est jeté. Là, j'ai trouvé mieux. Maintenant, pour le moment, vous pouvez envoyer l'enfant à l'école. L'enfant n'arrive pas. Soit l'enfant peut arriver à toi, un temps, il quitte l'école. Et là, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Soit que l'enfant puisse rester là qu'il a dit de l'année passée, ou bien l'enfant puisse continuer de là que moi, j'ai choisi d'attaquer son parent et son responsable plutôt.
Oui.
Et là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il doit faire. C'est pourquoi je m'ai un peu posé la question à l'invité du jour. Il peut me donner un peu de positif à suivre pour que l'enfant puisse voler dans de bonnes conditions avec son équipe scolaire. C'est une question de préoccupation.
Oui, et restez en ligne à Théophile Moupalaou, vous pouvez lui répondre tout de suite.
Je voudrais répondre à ce dernier auditeur.
Intervenant, oui.
Auditeur. Bien. Vous avez changé l'école de l'enfant parce que l'enfant est exigeant, etc. Mais tout à l'heure, j'ai insisté sur votre collaboration, votre concours en tant que parent avec l'école. Vous devez vous rendre compte, effectivement, faire un sondage auprès des collègues, des camarades des enfants pour savoir si, effectivement, il y a des problèmes. Parce que ce problème peut se poser soit au niveau du maître, de l'enseignant, qui se comporte en bourreau par rapport à l'enfant. Il a transformé la salle de la classe en caserne pour terroriser les enfants, les traumatiser, les frapper sans respect des droits dévolue à l'enfant, ou même certains élèves,
oui,
certains camarades de l'enfant, condisciples, qui se comportent en bourreau par rapport à votre enfant. Alors l'enfant a peur. Il a peur soit de l'enseignant, soit
de ses amis.
C'est comme ça qu'il se sentira en insécurité, il va demander de partir.
Madame Maurice, qu'est-ce qu'il doit faire exactement pour son enfant?
Mais justement, lorsque vous constatez qu'il y a un bourreau, soit de l'enfant, vous demandez à l'école de changer. Par exemple, s'il y a des classes parallèles, qu'on change l'enfant de A, qu'on le transfère en B. Et vice-versa, même s'il y a un enseignant qui se comporte de façon tout à fait brutale par rapport à votre enfant, on peut toujours trouver des solutions en changeant, n'est-ce pas, des classes au lieu de changer d'école.
Oui, voilà, il y a beaucoup de réactions, on ne peut pas les lire aujourd'hui. Israël Nzézoulé, on va lire la question d'Israël Nzézoulé. Il dit, est-ce que suivre la scolarité de son enfant signifie faire tous les devoirs à domicile à sa place?
Non, justement, non. Nous, les enseignants, nous décrions cela, nous dénonçons cela. Éviter de faire le devoir à la place des enfants. Il faut que l'enfant soit capable de faire ce qui lui a été demandé par l'école. Comment vous saurez que l'enfant a compris ce que l'école a...
Il ne faut pas faire à sa place,
non,
mais l'aider à faire.
L'accompagner, ouais, n'est-ce pas, à faire.
Et qu'est-ce que les parents doivent faire d'autre? Réviser les leçons avec l'enfant?
Non, c'est pas les parents qui vont passer l'examen, ce sont les enfants. Ils doivent
l'aider
compléter,
à réviser,
expliquer,
ouais,
soutenir l'enfant, renforcer ce que l'enseignant, l'influence, l'action du maître au niveau de la maison.
Au niveau de la maison. Voilà. Bien, merci Théophile Mompalo, expert en éducation. À la prochaine.
Je vous en prie. Merci.